Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. À quoi ressemble votre vie de couple? Je m'adresse plus spécialement à nos membres mariés aujourd'hui, évidemment. Mais vous trouverez tous, que vous soyez jeunes ou vieux, mariés ou non, matière à réflexion dans mon message d'aujourd'hui. Il est écrit que l'homme, après avoir été créé dans le jardin d'Éden, donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Ce qui prouve bien en aparté qu'il avait un langage, qu'il était intelligent, qu'il était adulte. Mais il se sentait bien seul. Il ne trouvait rien de commun avec toutes ces créatures qu'il nommait. Il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et cela, Dieu l'avait prévu. Peu avant, il avait dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors l'Éternel Dieu fit tomber un sommeil profond sur Adam, il l'anesthésia, il l'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam, et il l'amena vers lui. J'imagine qu'Adam a dû pousser un cri admiratif à la vue de cette créature magnifique que Dieu plaçait devant lui. Il a dû bondir de joie. Il a dû s'émerveiller. Il eut le coup de foudre et se sentit avec elle une affinité immédiate. Et j'imagine aussi la joie de notre Créateur quand il vit la réaction d'Adam et celle d'Ève. Ils ont dû tous les deux se regarder avec une certaine curiosité et surexcitation. Et Dieu a dû dire, j'imagine, j'aime ça, je suis content, c'est beau. Et Adam dit cette fois-ci, celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ces deux premiers spécimens humains étaient physiquement parfaits, étaient des chefs-d'œuvre, comme tout ce que fait Dieu. Physiquement, nous sommes des merveilles. Et depuis le jardin d'Éden, nous sommes physiquement pareils. Nos corps sont toujours des merveilles, créés, contrairement au restant de la création, à l'image et selon la ressemblance divine. Au commencement, Dieu créa donc l'homme et la femme, il les maria, il les unit. Mais cette union était-elle purement physique? Un symbolisme profond entoure l'institution divine du mariage humain. Et pour bien le comprendre, il nous faut, dans la mesure du possible, c'est-à-dire au moins un peu, nous mettre à la place de Dieu et imaginer ce qu'il a dû ressentir quand il a achevé cette nouvelle création. Dieu aime tout ce qu'il fait. Il éprouve du plaisir à faire tout ce qu'il fait. Et inévitablement, il y a un peu de lui dans toutes ses créations. J'imagine qu'il a dû éprouver un plaisir immense, une grande joie, à créer les premiers humains. Et Dieu a toujours voulu que le mariage soit une merveilleuse bénédiction. Évidemment, depuis lors, Satan fait tout ce qu'il peut pour le dégrader, le souiller, le pervertir, le ridiculiser et le détruire. Pourquoi? Parce que le mariage représente quelque chose que lui, Satan, n'a apparemment jamais compris, ni approuvé chez son Créateur. Une union, une unité, une communion, même dans le contexte d'un amour qui nous dépasse et qui est notre ultime destinée. La vérité sur le mariage humain a été tordue pendant des siècles, notamment par un faux christianisme dont l'influence est universelle. Mais nous sommes bénis, vous et moi, nous dans l'Église de Dieu, d'en entrevoir l'ultime apothéose. Ce que la Bible révèle à propos de l'union conjugale est stupéfiant. Pour qui a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, mais surtout un cœur sensible et pur. Le mariage, loin de se limiter à une simple association physique, doit devenir une union affective, sentimentale, hautement relationnelle, psychologique, pleine d'amour, un partenariat de toute une vie. C'est pourquoi nous devons choisir notre autre moitié sagement. Le mensonge est l'un des traits majeurs de Satan et de ses cohortes. Et depuis que l'humanité a décidé de faire bande à part, de se débrouiller seule, d'agir à sa guise, sans Dieu, c'est aussi devenu l'une des grandes faiblesses humaines. Des milliards d'êtres humains n'ont cessé depuis lors de se tenir dans le mensonge et dans ses laideurs et ses horreurs subséquentes. Frères et sœurs, en aparté, quelle importance attachez-vous à la vérité? Elle doit toujours être pour nous une perle d'un prix inestimable, y compris dans le domaine conjugal. Toutes les créations divines reflètent la vérité divine et le caractère de la famille Dieu. Intrinsèquement liée à la vérité figure la connaissance selon laquelle les couples humains sont unis par un dessein magistral, selon laquelle un symbolisme profond entoure l'institution divine du mariage. Comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises dans de précédents messages, la famille divine attache beaucoup d'importance à divers symboles. Les Écritures abondent en symboles. Ces derniers nous transposent dans une autre dimension, dépassant le simple sens des mots. Il nous faut continuellement évaluer ce qui, dans nos vies, s'apparente aux mensonges, aux ténèbres, à la laideur, à la destruction, d'une part, et d'autre part, à ce qui fait partie de la vérité associée à la lumière, à la connaissance, à la beauté, à l'amour. Nous savons que quand nous mentons, quand par exemple nous critiquons faussement un frère ou une sœur, portons un faux témoignage, médisons, colportons de fausses rumeurs ou faisons des commérages par jalousie, nous pratiquons la voie de Satan, nous plongeons dans les ténèbres. Nous transgressons au moins l'un des 10 commandements et si nous ne nous en repentons pas, ce péché provoquera notre chute et notre destruction totale. Le monde a pour père le diable. Il veut accomplir les désirs de son père. Satan a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Nous devons donc constamment nous demander si nous nous tenons fermes dans la vérité et dans la lumière, reflétant le caractère de celui que nous sommes supposés imiter, notre frère aîné, Christ. L'une des vérités les plus voilées et les plus vilipendées est celle du symbolisme profond qui entoure l'institution divine du mariage humain. Nous cherchons, vous et moi, à être le plus proche possible de Dieu. Et des passages comme 1 Jean 1 ne nous sont pas étrangers. Reportons-nous à Jean chapitre 1, verset 6. 1 Jean chapitre 1 et le verset 6. 1 Jean chapitre 1, verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres. Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà donc notre objectif, marcher dans la lumière, être mutuellement en communion entre nous, entre vrais chrétiens et prémices du plan salut, du plan divin de salut, grâce à la purification que nous apporte le sang de Christ. Cette communion dans la lumière divine, grâce à Christ, revêt aussi un profond symbolisme. Mais que représente cette communion ? Que voulait dire Dieu quand il déclara « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair ?» Si nous voulons que nos unions conjugales ressemblent de plus en plus à celles que notre Père Céleste a toujours souhaitées, reflète le symbolisme profond qui entoure l'institution divine du mariage humain. Nous devons commencer par comprendre ce que Paul a dit quand il a dit dans Éphésiens 5, 32, je cite, « Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Paul établit ici un rapport, et dans le grec, le mot « mystère » a le sens de « secret sacré ». Secret sacré de quelque chose qui doit être révélé par Dieu. Dieu veut que nous pensions comme lui. Ce secret sacré, Dieu nous le révèle dans sa parole pour autant que nous soyons disposés à l'écouter et que nous soyons à l'écoute de sa voix spirituelle. Comment l'homme et la femme deviennent-ils une seule chair ? Par une relation physique, par une relation sexuelle, par copulation, certes, mais cette étreinte merveilleuse est-elle uniquement physique ? En fait, l'union de deux corps qui forment le couple est transcendante. Elle revêt un symbolisme profond, intrinsèque, en ce sens qu'elle unit deux êtres d'une manière unique, mais leur permet aussi d'accéder à une dimension d'une teneur hautement spirituelle. Il se crée entre les époux une profonde intimité, Mais que transmet cette intimité ? Une profonde affection. Et l'affection revêt une dimension spirituelle. Voilà pourquoi Paul qualifie l'amour que Christ a pour l'Église, symbolisé par l'union conjugale, de véritable mystère, de grand mystère. Car c'est quelque chose qui échappe à la plupart des couples hétérosexuels humains, légitimes, et qui échappe totalement aux couples non hétérosexuels et profanes. À nos couples dans l'Église, si vous voulez que votre mariage reflète davantage le type d'union que notre Père Céleste a prévu, vous devez vous concentrer sur l'élément affection et appréhender ce que l'Éternel a ressenti quand il a créé l'homme et la femme. Et l'affection n'est pas un calcul qu'on dispense seulement quand on estime que l'autre en est digne. C'est un choix. Et celui de donner pour le plaisir de donner, sans chercher à prendre, à se situer en seconde place, donnant la première à l'autre. L'affection est une composante de l'amour. Et je parle pas seulement ici de cette composante dans le contexte du couple, mais aussi dans celui des jeunes et des personnes non mariées ou divorcées, veufs ou veuves. Étroitement attachée à l'affection est la tendresse. La tendresse caractérise-t-elle votre couple ? Il y a ici un élément culturel. Dans certaines cultures, l'affection et la tendresse sont deux éléments totalement absents des unions conjugales. Notons au passage que la tendresse est un prolongement de l'affection. L'affection et la tendresse sont deux éléments distincts. On peut avoir de l'affection pour quelqu'un sans pour autant lui procurer ou devoir ou pouvoir lui exprimer physiquement de la tendresse. Dans tout couple uni et heureux, les deux sont présents et se fondent, se complètent. Il n'y a rien de plus complet qu'un couple qui traverse le temps et qui accepte que la tendresse envahisse la passion, a écrit le romancier Marc Lévy. Sans la tendresse, l'amour ne serait rien, disait la chanteuse Marie Laforêt. Pour beaucoup de femmes, le plus court chemin vers la perfection, c'est la tendresse, disait François Mauriac. La tendresse fait fleurir l'amour et lui donne sa beauté et sa saveur mielée, a dit Talal Gojna. La tendresse est un regard bienveillant qui en dit toujours long sur celui qui le porte, a dit Damien Bérard. Un baiser est un secret raconté à la bouche au lieu de l'oreille. Les baisers sont les messagers de l'amour et de la tendresse, disait Ingrid Bergman. Le câlin, c'est déposer de la tendresse et laisser le temps s'écouler, a dit Sonia Lacheny. C'est cela la tendresse, l'équilibre des gestes, des mots qui sont à la mesure des sentiments, a dit Anne Bernard. Qui sème la gentillesse récolte la tendresse, a dit Talal Gosh à nouveau. Chez les personnes non mariées, l'affection doit aussi exister, mais l'élément tendresse tend à être plus psychique, plus mental et nettement moins physique. Mais l'homme et la femme ont été créés pour devenir un, comme notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ. Et le profond symbolisme de l'unité caractérisant le Père et le Fils dans la famille divine doit être aussi intrinsèquement présent dans la fraternité des enfants de Dieu. Christ, peu avant sa mort, fit à ses disciples plusieurs déclarations d'une importance pour nous capitale. Vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Il était question de cette affection dont je vous parle aujourd'hui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Le symbolisme profond de deux êtres qui deviennent une seule chair, de tout leur cœur et de tout leur être, reflète cette relation intime que notre Père Céleste et son Fils veulent avoir avec nous. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Nous devons porter du fruit. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Christ parle encore de ce profond symbolisme qui doit unir tous les membres de la famille divine, représentée par l'intimité du couple, quand il écrit ce qui suit. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Cette profonde affection consiste à garder ses commandements. Avez-vous noté le mot affection à nouveau? C'est garder ses commandements, faire ce qu'il nous a dit et de la manière dont il l'a fait. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Ce qui était nouveau, c'était cette nouvelle dimension, comme je vous ai aimés. Non seulement nous devons nous aimer les uns les autres, mais nous devons le faire comme il l'a fait, avec le même amour, avec le genre d'amour qu'il a pour nous. Ce genre d'amour nous propulse dans sa dimension spirituelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et à 6 reprises, Christ revient sur l'intimité qui doit caractériser nos rapports entre mari et femme, et qui est un type des rapports devant exister entre tous les membres de la famille divine. Il insiste à 6 reprises sur le mot « un », pour bien montrer l'unité, la communion qu'il doit y avoir entre nous et entre tous les membres de la famille divine. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Quand je parle de tendresse et d'affection, je veux parler de la voie qui consiste à donner plutôt qu'à prendre, pour reprendre la définition que M. Armstrong donnait de l'amour. Quand on est affectueux, qu'on aime vraiment son conjoint ou sa conjointe, on cherche à lui faire plaisir. On ne se concentre pas sur sa propre satisfaction ou son propre plaisir, mais sur sa satisfaction, le bonheur et le plaisir de l'autre. Messieurs, aimez vos femmes sans vous presser. Les hommes ont toujours tendance à vouloir tout brusquer. La relation conjugale prend du temps, réclame de la patience, beaucoup de minutes. Mesdames et messieurs, ne bâclez pas vos gestes d'affection et de tendresse. Dans l'affection comme dans la tendresse, il n'y a pas l'idée de vitesse. Savourez pleinement le temps que vous passez ensemble. Dans un contexte plus général, Paul a dit, et ce principe s'universalise et inclut les non-mariés, s'il y a donc quelque encouragement dans le Christ, s'il y a quelque réconfort de l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque tendresse, j'aime le mot tendresse, et quelque magnanimité, comblez ma joie en étant bien d'accord, en étant d'accord les uns avec les autres, étant à la même page. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée, et l'on dénote ici la même pensée, le même principe spirituel. Ne faites rien par ambition personnelle, ni par vanité. Avec humilité, au contraire, estimez les autres, y compris votre époux ou votre épouse, supérieurs à vous, à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres ou à l'autre. Cela s'applique aussi au couple. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu. Il était Dieu, il aurait pu insister à être traité comme Dieu, comme il le méritait, à conserver tous les privilèges divins. Mais il s'est vidé ou dépouillé de lui-même en se faisant vraiment esclave ou serviteur, en devenant semblable aux humains. reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. Si nous ne pouvons pas faire cela dans notre vie de couple, comment pouvons-nous le faire entre frères et sœurs, en la foi? Pouvons-nous cerner ce merveilleux principe, l'axiome de l'amour divin dans ses paroles? Paul a également écrit « Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. » De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ou, comme le dit la Nouvelle Bible Second, ce n'est pas la femme qui a autorité sur son propre corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui a l'autorité sur son propre corps, c'est sa femme. Comme cela s'oppose aux philosophies actuelles de ce monde et au féminisme. Ce symbolisme ne devrait pas échapper à nos membres célibataires non plus. Il n'est pas nécessaire d'être marié pour être dans le royaume de Dieu. Nous avons un certain nombre de membres non mariés qui sont des membres très solides, qui sont très convertis, qui servent, qui sont des lumières dans ce monde de ténèbres. À notre époque, il devient très difficile de trouver un conjoint ou une conjointe. Surtout avec toute l'immoralité qui règne. Et mieux vaut demeurer célibataire que d'avoir un mariage raté. Mais que nous soyons mariés ou non, les principes intrinsèques évoqués dans le profond symbolisme du mariage doivent nous guider dans nos rapports avec autrui, au niveau de notre fraternité avec nos frères et sœurs en la foi. Et nous guider pour comprendre Dieu et l'amour divin. Nous sommes destinés à être si proches de notre Père Céleste et de son Fils que nous partagerons leurs pensées, leurs valeurs, leur créativité, leur enthousiasme, leur humour même, leur fascination, leur émerveillement, leur gloire et leurs plans. Quel avenir extraordinaire! Mais est-ce que nous appréhendons ce sujet dont je veux parler aujourd'hui? Le mariage humain doit être un catalyseur d'amour. Notre union conjugale reflète-t-elle la fidélité divine? Il y a une grande fidélité dans l'amour. Voilà encore un élément qui échappe à la majorité des couples humains. La fidélité. Personne ne s'engage plus de nos jours. Le sens du devoir et de l'engagement ont pris la poudre d'escampette. La fidélité est empreinte de persévérance, d'endurance et d'humilité, de déni de soi, de réelle charité. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle. Et sans iniquité, il est juste et droit. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est ce que nous dira un jour Christ si nous demeurons fidèles en tout point. Je découvre que j'aime ma femme plus aujourd'hui que quand j'étais jeune. La voix divine nous fait découvrir l'amour. Si tout se passe comme prévu, quand vous devenez vieux, vous aimez davantage. Et vous aimez de la bonne façon. Quand on est jeune, l'amour qu'on éprouve pour l'autre est essentiellement physique. On aime ce qu'on voit, ce qu'on reçoit, ce que l'autre nous donne. Le plaisir qu'on retire de notre relation. Avec les années, l'amour mûrit. On se met à voir les choses différemment, davantage avec l'optique divine. L'apparence physique ne compte plus autant. On voit avec les yeux du cœur. Les gestes sont davantage empreints de tendresse, d'une plus grande affection. On découvre la beauté intérieure de l'être aimé. Et cela fait partie de notre entraînement, de notre formation spirituelle en tant que chrétien, en tant que prémisse du plan divin. prétendre que la sexualité a pour unique fonction la procréation, c'est se tromper grossièrement sur le profond symbolisme du mariage. La sexualité est une force si puissante que les humains, dès le départ, ont eu du mal à la maîtriser, n'est-ce pas? Et s'étant retranchés de Dieu, ils l'ont profanée, ils l'ont souillée, ont sombré dans toutes sortes de déviations, de perversions, de pratiques contre nature basées sur la sensualité, dénuées de tendresse et d'affection, ne pouvant appréhender le sens du sacré et la responsabilité si vitaux à toute union réussie. En rejetant le dessein divin dans l'union conjugale, les humains ont pratiqué toutes sortes d'excès, comme la prostitution, la vulgarité, l'exhibitionnisme et autres comportements destructeurs de toute société stable, paisible et prospère. Cela, nous le savons, les fruits pourris de ce type d'idolâtrie s'affichent partout autour de nous. Mais rappelons-nous que nous devons raisonner comme Dieu et non comme le monde, avoir les sentiments ou les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Un chrétien se tient dans la vérité. Jean chapitre 13, verset 35. Jean chapitre 13 et le verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et Christ ne parle pas ici de n'importe quel type d'amour, mais de l'amour divin, de l'amour pur, et j'oserais même dire désintéressé. Nous séduisons-nous nous-mêmes, nous faisons-nous des illusions? Il y a un verset auquel je pense souvent, et aux questions de nos motifs secrets. On peut prétendre toutes sortes de choses, on peut se faire passer pour ce que l'on n'est pas, mais Dieu n'est pas dupe. On peut tromper le ministre, on peut tromper bien des gens, mais Dieu n'est pas dupe. Dieu regarde au cœur. Il y en a toujours qui jouent avec le feu, et quand on joue avec le feu, on finit tôt ou tard par se brûler. On ne se moque pas de Dieu. C'est un passage auquel je pense souvent. On ne se moque pas de Dieu. Et je me dis, faut que je sois certain que je ne fais pas cela. Que je prends Dieu au sérieux, que je prends sa parole au sérieux. Souvent, Dieu laisse faire, il est patient. Il nous donne l'occasion de changer, de rectifier le tir, de nous réformer, de nous repentir. Il peut permettre que nous fassions fausse route pendant des années. Mais tôt ou tard, le moment vient pour nous de rendre des comptes. Il y aura un bilan. Faisons donc les bons choix. Galates chapitre 6, verset 7. Galates chapitre 6 et le verset 7 est ce passage auquel je pense assez souvent. Galates chapitre 6 et le verset 7, surtout à l'époque où nous vivons. Galates chapitre 6 et le verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme ou une femme aura semé, il ou elle le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Quelle sera notre moisson? De par la nature de nos activités, nous autres dans le ministère, nous avons souvent affaire à des individus ou à des groupes qui, pour reprendre l'expression dont Paul s'est servi, se moquent de Dieu, dont les motifs sont loin d'être purs. Ils ne sèment pas de la bonne graine. Il y a ceux qui cherchent un soutien financier ou une position, qui cherchent leurs propres intérêts. Ils récolteront ce qu'ils sèment. À nouveau, on ne se moque pas de Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 6. 1 Jean chapitre 2 et le verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui, en Christ, doit marcher comme aussi il a marché lui-même, l'imiter, faire comme lui a fait. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent, et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère ou sa sœur ou son époux ou sa femme demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui ou en elle. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Quand je vois la réaction de certains, je me demande qui les a baptisés. Qui les a baptisés? Il est clair que certains n'ont pas le Saint-Esprit. Qui nous a baptisés? Un vrai serviteur de Dieu? De quel baptême avons-nous été baptisés? Est-ce en Christ que nous avons été immergés? Portons-nous des fruits? Les fruits de l'Esprit? Nous devons nous assurer que nous portons de bons fruits, les fruits pour le royaume, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Du temps des apôtres, il y avait un certain Simon le magicien. Oh, il a beaucoup d'acolytes modernes. Nous avons même parfois parmi nous des gens qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Il est précisé dans le 8e chapitre des Actes que Simon le magicien exerçait la magie ou exerçait l'art d'enchanteur ou pratiquait la sorcellerie. Autrement dit, il invoquait le diable ou les esprits impurs ou démons. Dieu avait averti les Israélites qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Simon ensorcelait le peuple de Samarie. Il les avait longtemps stupéfiés par sa magie. Les habitants de cette ville disaient à tort, « Oh, celui-ci est la grande puissance de Dieu !» Il semble que le statut de Simon le magicien ait été menacé par l'arrivée de Philippe, qui proclamait l'évangile du royaume de Dieu. Quand les gens crurent à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon était de ceux qui crurent, apparemment, et il se fit aussi baptiser. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient par la puissance divine. Les personnes que Philippe avait baptisées, n'ayant pas encore reçu le Saint-Esprit, par l'imposition des mains d'un serviteur de Dieu, et pas de n'importe qui à nouveau, Pierre et Jean vinrent de Jérusalem pour accomplir cet aspect important du baptême. Simon, voyant que les gens recevaient le Saint-Esprit par l'imposition des mains des apôtres, et pas n'importe qui, leur offrit de l'argent pour qu'ils lui donnent le même pouvoir. Se faire baptiser est une chose, recevoir l'Esprit de Dieu en est une autre. Lisant ses pensées, Pierre fustigea Simon le magicien, disant « Que ton argent périsse avec toi !» Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Et au lieu de se repentir de son péché, il se contenta de demander à Pierre de prier pour lui. « Priez pour moi. » Il ne s'est pas repenti, il n'a pas demandé à Dieu de le faire. « Priez pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Ce n'est pas de la conversion. Vous savez, on ne se moque pas de Dieu. Nous récolterons ce que nous avons semé. J'ai utilisé cet exemple pour établir d'une part le contraste entre la vraie unité, le véritable amour, l'affection et la tendresse que nous devons avoir les uns pour les autres, et d'autre part toutes les manigances sataniques typiques dans ce monde et que nous rencontrons même parfois dans notre ministère. Les vrais chrétiens, comme le symbolise l'union sacrée du mariage, sont unis par un dessein magistral. Il y a, je le répète, dans le mariage humain un profond symbolisme qui ne doit pas nous échapper. À quoi pensait Christ quand il déclara « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Sommes-nous capables de faire cela dans le contexte du mariage, pour notre conjoint ou conjointe? Monsieur Meeker m'a demandé de vous parler dans mon message d'aujourd'hui de la manière de fortifier nos mariages. J'ai donc choisi de développer, comme vous avez pu le remarquer, l'élément crucial dans toute union conjugale qu'est l'affection. L'affection. L'affection est un élément souvent absent dans nos relations humaines modernes. Il y a généralement une forte dose de sensualité, de convoitise, pour ne pas dire un comportement agressif, voire bestial, une forte invitation à ce qui provoque le plaisir des yeux et celui des sens, mais une faible dose d'altruisme, de charité, du désir de faire plaisir et du déni de soi. Et cela nous affecte. Soyons francs, ce que le monde appelle l'amour est généralement la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et comme l'a dit Jean, cela ne vient point du Père, mais du monde. C'est de la convoitise et de l'égoïsme, pas toujours, mais souvent. Et cette attitude du monde porte des fruits pourris. Nous devons donc nous en distancer, garder les yeux sur Christ et rechercher ce qui porte de bons fruits. De nos jours, quand on se marie, ce n'est plus jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais jusqu'à ce que nous soyons lassés l'un de l'autre, jusqu'à ce que tu ne me plaises plus, ou jusqu'à ce que je n'ai plus envie de toi. Il y a rarement un sens d'engagement permanent, d'une responsabilité individuelle. Il n'y a plus guère de tentative de persévérance et il est rarement question de fidélité. Il est facile et courant de se donner bonne conscience en classant les péchés par ordre d'importance ou de gravité, prétendant par exemple que l'adultère ou la fornication n'est pas aussi grave que l'homosexualité, le lesbianisme ou la bestialité. Qu'en pense Dieu? Un péché est un péché, c'est manquer la cible, c'est manquer le coche, c'est aller complètement à côté. Tout péché mène à la mort. Pourquoi? Parce que le péché ne porte que des mauvais fruits. Que des mauvais fruits. Et Dieu ne veut que des heureux dans son royaume. Parce qu'il n'y a qu'une seule voie qui en vaille la peine, la sienne. Nous savons ce qui s'est passé quand Lucifer et ses cohortes ont essayé autre chose. Les résultats se sont avérés désastreux. Telle voie paraît droite à un homme, nous pourrions même dire à un archange dans ce cas, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 14:12, et cet axiome est si important que Dieu le répète deux chapitres plus loin, dans Proverbe 16:25. Vous connaissez ce passage, nous l'avons cité probablement des centaines de fois. La question que nous devons nous poser est la suivante, allons-nous vivre selon la chair ou selon l'esprit ? Sommes-nous de vrais chrétiens ou des imposteurs? Il y a parfois des imposteurs parmi nous. Romains chapitre 8, verset 9. Romains chapitre 8 et le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Paul s'adresse ici aux Romains et à des membres de l'Église, aux convertis. Pas aux imposteurs. Mais vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'est pas chrétien. Il ne fait pas partie des prémices. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vous. Corps mortel, par son esprit qui habite en vous. à nouveau si vous êtes convertis. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Une fois convertis, nous ne devons pas nous dire « Oh bon, bah, Christ a tout fait à notre place, maintenant je peux faire ce que je veux ». Non, nous ne pouvons pas continuer à vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Sous-entendu, vous vivrez éternellement, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sommes-nous conduits par l'Esprit de Dieu? Tout péché sera définitivement exclu dans le royaume de Dieu. Il n'est à présent toléré qu'à des fins pédagogiques, pourrait-on dire. Dieu veut que nous sachions ce qu'il produit. Si nous souhaitons y renoncer à jamais, nous pourrons entrer dans son royaume. Sinon, nous serons détruits définitivement. Comprenons-nous ces choses? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 9. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu, si ce n'est par l'intermédiaire de l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme spirituel, l'homme naturel, pardon, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ, et j'espère que cela nous décrit, frères et sœurs. La façon de changer les mentalités des autres est avec l'affection et non avec la colère, disait le Dalai Lama. Je suis né avec un énorme besoin d'affection et un terrible besoin d'en donner, disait Audrey Hepburn. C'est par l'affection que nous manifestons à notre prochain que nous pouvons juger de la vérité, de la sincérité, de notre véritable amour pour lui, a dit Daniel Gagnon. Il y a toutes sortes d'amour, et à l'intérieur de chacun d'entre eux, une infinité de degrés et de paliers qui s'appellent affection, adoration, attachement, inclination, tendresse, passion et le reste, a dit Jean Simard. Les femmes sont comme les fleurs. Elles reverdissent aux doux soins de l'affection. Elles épanouissent à l'eau de rose de l'amour. Georges Isidore Barthes. Mon mari et moi étions si étroitement unis par notre affection et notre travail commun que nous passions presque tout notre temps ensemble. Marie Curie. On ne se jette pas dans des bras croisés. Même assoiffé d'affection, on n'embrasse pas les oursins. J'aime bien celle-là. Fatou Diom. A dit ces choses. C'est formidable, ça. Une affection est une conviction. Une affection est une conviction, disait Victor Hugo. Quelle place a l'affection dans le royaume de Dieu? Une place énorme. Et le mariage humain doit être un réceptacle de ce merveilleux produit de l'amour divin. Et l'affection s'exprime par de la tendresse, une grande tendresse. Et pour les personnes mariées, des caresses, de longues caresses. Vous voulez améliorer votre mariage, avoir une meilleure vie conjugale, apprendre à mieux aimer, apprenez à faire preuve de beaucoup plus d'affection. Sortez de votre coquille. Nous manquons tous d'affection. Le monde est dur, il nous affecte, nous devons fournir de gros efforts pour ne pas nous laisser happer par les philosophies du monde, ses attitudes. Nous devons apprendre à donner beaucoup de tendresse. Et je parle à nos messieurs comme à nos dames, car les femmes sont devenues très souvent, elles aussi, dures en ce monde moderne. Nous vivons dans un monde souvent dépourvu d'affection. Le manque d'affection est une terrible carence qui engendre souvent de terribles conséquences. De nombreuses recherches ont établi le lien entre le manque d'affection et toutes sortes de déviations et de perversions. C'est aussi la conclusion que j'ai tirée dans des études et des recherches que j'ai effectuées il y a bien des années avant mon entrée dans l'Église en psychologie, psychanalyse et médecine. Les troubles du comportement sont très souvent liés à une jeunesse mal guidée, dépourvue de formation parentale et surtout un manque d'affection. C'est d'ailleurs la constatation qu'a tirée l'écrivaine Mary Shelley quand elle a écrit, et je cite, « Le comportement criminel trouve le plus souvent son origine dans une frustration, un manque d'affection. » Soyons prudents dans notre manière de juger les gens. Bien des maux, la délinquance, le crime et bien des perversions sont issus d'un grand manque d'affection dans l'enfance. Un péché est un péché, mais sans doute beaucoup d'êtres humains bénéficieront-ils un jour, lors du jugement, de circonstances atténuantes. Le péché est un terrible fléau. Satan et ses démons n'ont guère d'affection ni de tendresse. Mais notre Dieu d'amour, qui est un Dieu d'affection et de tendresse, est miséricordieux. Ceux en qui réside le Saint-Esprit sont responsables, ils savent. Vous et moi, je parle à des gens convertis, nous avons déjà commencé à penser comme notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ. Nous avons leur esprit. Nous avons déjà commencé à nous imprégner des pensées qui étaient en Jésus-Christ, mais il y a encore un bout de route à faire. La distance à franchir entre le charnel et le spirituel est considérable. Ésaïe 55. Ésaïe 55 et le verset 6. Ésaïe 55 et le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Un symbolisme profond entoure l'institution divine du mariage humain. Notre union conjugale reflète-t-elle la fidélité divine? Notre Dieu d'amour peut-il accomplir ses desseins en nous? Sommes-nous réceptifs à sa pensée? Est-il à la barre de notre vaisseau? Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, est-il écrit dans Proverbe 5. Proverbe 5, versets 18 à 23. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère, embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Quelle place ont l'affection et la tendresse dans ces versets? Une place énorme, car il s'agit de l'attitude divine. Notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ sont des êtres pleins d'affection et de tendresse. Romains 5, 8. Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5 et le verset 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Si ce n'est pas de l'affection, je me demande ce que c'est. On peut parler d'amour, mais ce mot a tellement été malmené que nous avons du mal à pleinement en évaluer la teneur, l'intensité. Jean chapitre 3, verset 16, un passage que le christianisme cite tellement souvent sans réellement le comprendre, sans réellement mesurer la teneur, l'intensité, la force. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est pratiquement impossible pour nous autres humains de mesurer l'ampleur d'une telle déclaration. Un tel amour dépasse notre imagination, mais cet amour est aussi porteur d'une dose inestimable d'affection et de tendresse. Cette affection et cette tendresse sont ce à quoi nous avons été appelés, c'est notre destinée. De même qu'un couple devient littéralement une seule chair, non seulement physiquement, mais aussi mentalement, psychologiquement et spirituellement, et devient un, de même nous sommes destinés à devenir un, parfaitement unis, en communion totale avec notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5 et le verset 23. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Et en prendre soin sous-entend lui aussi lui vouer une profonde affection, une grande tendresse. Parce que nous sommes hommes et femmes convertis, membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Quelle image merveilleuse! Ce mystère est grand et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et l'on retrouve ici le commandement de Christ d'aimer son prochain comme soi-même, et que la femme respecte son mari. En tant que mari et femme, nous sommes unis par un dessein magistral. Un symbolisme profond entoure l'institution divine du mariage humain. Notre union conjugale reflète-t-elle l'affection, la tendresse et la fidélité divine? Il est grand temps que nous apportions les touches finales à notre relation avec notre Père Céleste et notre Roi à venir, notre Rédempteur et notre Frère aîné. Nous sommes assurément unis par un dessein magistral, un symbolisme profond entoure l'institution divine du mariage humain. Je vous souhaite à tous une bonne fin de sabbat, je vous souhaite bon courage et je vous dis au revoir et à bientôt.